Il est 9h passé de 15 secondes sur France Culture. Les informations, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Iran a mis en route des centrifugeuses avancées dont la production augmentera le stock d'uranium enrichi produit par le pays, déclare le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. C'est une réduction des engagements de Téhéran sur le nucléaire alors que l'accord de 2015 ne l'autorisait qu'à produire de l'uranium enrichi avec des centrifugeuses de première génération. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique doit rencontrer de hauts responsables iraniens en Iran ce week-end, a annoncé hier cette agence des Nations Unies. Dans le dossier nucléaire en Corée du Nord cette fois, alors que les négociations entre Américains et Nord-Coréens sont toujours au point mort, le groupe d'experts de l'ONU sur l'application des sanctions visant Pyongyang vient de rendre le second de ses rapports d'étape. Un bilan sans appel, non seulement la Corée du Nord a poursuivi son programme d'armement nucléaire, mais elle a aussi et surtout réussi à le financer en court-circuitant l'appareil des sanctions internationales ou en subtilisant directement des fonds grâce aux piratages informatiques. Eric Bigala.
Pour ce qui est des armements d'abord, et ce malgré l'absence d'explosions de bombes test ou de tirs de missiles à longue portée depuis 2 ans, le rapport des experts onusiens note que les tirs de missiles à courte portée de mai et juin dernier a permis à Pyongyang de consolider l'ensemble de son programme de missiles balistiques en validant le lancement effectif de vecteurs à combustible solide depuis des plateformes mobiles. Mais c'est sans doute dans sa capacité d'évitement et de contournement des sanctions internationales que Pyongyang s'est révélé le plus efficace. En particulier, la Corée du Nord a développé une infrastructure cyber qui lui a permis de générer des fonds grâce aux cybermonnaies ou tout simplement au piratage des réseaux. Le rapport signale ainsi le cas d'un pays non identifié dont les infrastructures de distribution d'argent liquide ont été piratées, permettant à la Corée du Nord d'organiser en 5 heures et dans plus de 20 pays 10 000 retraits d'espèces au profit d'individus travaillant pour son compte. Un semblable braquage bancaire informatisé avait déjà visé la banque centrale du Bangladesh en 2016. Quelques 81 millions de dollars avaient à l'époque été détournés. Les hackers de la Corée du Nord figurait déjà au rang des principaux suspects.
Eric Bigala. À Hong Kong, un très fort déploiement de policiers est en cours en ce moment sur les voies d'accès à l'aéroport international. Alors que les manifestants appellent à bloquer les liaisons, le chef du gouvernement local, Carrie Lam, a appelé au dialogue après avoir retiré la loi sur les extraditions cette semaine, le texte qui était le point de départ du mouvement de colère il y a 3 mois. Hier à Pékin, la chancelière allemande Angela Merkel, en visite officielle pour 2 jours, a publiquement soutenu l'état de droit à Pyongyang, alors que la Chine s'inquiète des conséquences financières de cette crise. Correspondance de Dominique André.
La confiance peut-elle être restaurée? Des progrès sont-ils possibles pour sortir Hong Kong de la crise politique sévère dans laquelle la place financière a plongé? L'agence de notation financière Fitch a dégradé la note souveraine de Hong Kong, désormais classée AA au lieu de AA+. L'agence souligne la crainte d'un affaiblissement de l'état de droit préjudiciable aux affaires. Le gouvernement local a envoyé une lettre à tous les consulats pour dire le contraire, mais même à Pékin, ce jeune financier s'inquiète pour Hong Kong.
S'ils ont retiré la loi, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre leur but, c'est ce que je comprends, mais bon, je n'ai pas les détails précis de la loi. Je trouve que c'est le peuple qui a gagné, les pouvoirs sont enfin retournés au peuple. De toute façon, c'est le peuple hongkongais qui résoudra lui-même ses problèmes, car ça peut changer leur vie, c'est normal. Je suis allé à Hong Kong l'an dernier. Ça allait bien encore. Il y avait beaucoup de commerçants. Les Chinois faisaient leurs achats. Les Hongkongais sont très sympas. Il n'y avait pas de tension dans l'air. Je regarde les infos sur Internet par le réseau WeChat. En Chine, c'est pas facile d'accéder aux sites étrangers. Je ne sais pas quel était leur but initial quand ils ont mis au point le projet de loi, mais je pense que ce n'est pas simple.
Carrie Lam a déclaré que le retrait de la loi à l'origine des manifestations n'est qu'une première étape. Elle a créé une plateforme de dialogue, mais le mouvement pro-démocratie poursuit sa mobilisation.
Dominique André. Déjà englué dans la crise du 737 Max, Boeing a rencontré des problèmes techniques lors des tests de son futur long courrier, le 777X. Avec des inspecteurs de l'Agence fédérale de l'aviation, les tests dans la foulée ont été suspendus. Cet incident intervient au mauvais moment pour le géant américain qui est en train de boucler les changements exigés par les régulateurs afin d'obtenir la levée de l'interdiction de vol frappant son 737 Max après 2 accidents ayant fait au total 346 morts. La République En Marche prépare les élections municipales dans sa première université d'été. C'est ce week-end à Bordeaux. Baptisé Campus des Territoires, La République En Marche attend 3000 personnes pendant ces deux jours, avec l'objectif bien sûr de préparer la prochaine échéance électorale. En France, toujours un agriculteur sur deux est touché par la sécheresse, selon l'assureur Groupama, qui enregistre une forte hausse des demandes d'indemnisation cette année. Et il ne s'agit que d'un aperçu, car seulement 30% des surfaces agricoles françaises sont assurées. Mais cela donne tout de même une tendance très inquiétante, selon la directrice du marché agricole de Groupama, Delphine L'Étendard. Elle répond à Fabien Cazot.
C'est assez inhabituel d'avoir autant de déclarations sur une période si courte. L'année dernière, on avait déjà connu une sécheresse assez forte, mais pas à ce point et pas avec autant de sinistres déclarés et pas d'effets canicules qui ont renforcé finalement le manque d'eau.
Est-ce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres dans les demandes d'indemnisation que vous recevez ?
Oui, aujourd'hui, pour nous, les régions les plus touchées, c'est clairement la région Rhône-Alpes et puis le Grand Est de la France. On a une culture, le maïs, qui a manqué d'eau au moment de la floraison, ce qui a généré un manque de grains sur les épis. Et pour la vigne, qui avait déjà connu des événements de gel assez forts au mois d'avril, puis des épisodes de grêle, là, la sécheresse et la canicule, elle vient juste renforcer une culture qui allait déjà pas toujours très bien. Et on constate des baies sur les grappes qui sont insuffisamment remplies et qui sont vraiment toutes rabougries et qui ressemblent un peu à des raisins secs ou à des raisins de Corinthe.
Alors qu'un nouveau fléau arrive sur le sol français pour les agriculteurs, la bactérie tueuse d'olivier Xylella fastidiosa a été détectée sur deux oliviers dans les Alpes-Maritimes, selon une annonce officielle publiée par le ministère de l'Agriculture. Cette bactérie transmise par les insectes est considérée comme l'une des plus dangereuses pour les végétaux à l'échelle mondiale. Surnommée la lèpre des oliviers depuis son arrivée en 2013 dans la région des Pouilles en Italie, elle a causé la mort de plus d'un million d'arbres. La météo, des averses sur une diagonale qui va du quart nord-est à la Vendée en passant par l'Île-de-France ce matin. Alternance de soleil et d'éclaircies sur le reste du territoire. Soleil au bord de la Méditerranée. Les températures sont comprises ce matin entre 14 et 24 degrés avec 14 degrés à Saint-Malo, 16 à Paris, 17 à Bordeaux jusqu'à 24 degrés à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Benjamin Ducy. Prochain journal d'actualité sur France Culture, ce sera à midi et demi, présenté par Mathieu Laurent.